Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Voilà, nous continuons dans notre série sur les 10 commandements. Et c'est déjà notre 6e message sur ce thème. Alors, je crois qu'on va résumer rapidement. C'est tellement important pour nous d'avoir certaines bases bibliques et de comprendre ce que nous sommes en train d'étudier. Alors, les 10 commandements, ils ont leur place dans notre vie et dans notre monde. La loi, elle est toujours en vigueur. Elle a été donnée par Dieu lui-même. Jamais personne n'a pu la respecter. Elle est par nature inapplicable, mais elle est utile pour faire prendre conscience à chacun d'entre nous notre état et nous conduire à Christ, le seul qui l'ait accompli. On a vu les premiers commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, que Dieu est un Dieu unique, c'est un Dieu jaloux et un Dieu qui mérite d'être servi. Puis on a vu le deuxième commandement, où il nous est dit que nous ne devons pas prendre le nom de l'Éternel, notre Dieu, en vain. Et on a vu 3 points. Le nom, c'est la personne. Nous montrons du respect pour le nom de Dieu. Nous n'utilisons pas le nom en vain, car cela affaiblit notre foi. Et il y a de la puissance dans le nom de Dieu. Le troisième commandement, et pendant que je le dis, essayez mentalement de dire, ah oui, le prochain c'est, souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Mais il y a aussi un complément, il est dit, pendant 6 jours, tu feras tout ton ouvrage. Alors, nous avons vu à nouveau 3 points. Le sabbat a été fait pour l'homme et non pour nous asservir à des principes religieux. Un jour de repos, pour quoi faire? On avait vu, pour le sanctifier, et que nous voulons entrer dans le repos de Dieu. Le 4e commandement, c'était... Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc nous avons vu à nouveau 3 points. C'est chaque fois 3 points pour simplifier parce que des fois c'est difficile de retenir 36 000 choses. Mais 3, on va peut-être y arriver. Alors les 3, c'était la culture de l'honneur. Le numéro 2, c'était faire preuve de respect. Et le 3e, c'était un commandement avec une promesse afin que tu vives heureux et longtemps sur la terre. Et maintenant, nous voyons le commandement suivant. Alors, spécialement, c'est un commandement qui favorise la vie, parce que le commandement dit « tu ne tueras point ». C'est du moins dans sa version la plus connue, car en vérité, la traduction plus juste sera notre titre aujourd'hui. Il est dit « tu ne commettras point de meurtre ». Souvent, on l'a connu sous le nom de « tu ne tueras point ». Beaucoup de gens ne connaissent pas les 10 commandements, mais ils se rappellent qu'il ne faut pas tuer ou dérober. Les autres choses sont un peu bizarres ou un peu floues dans l'esprit des gens, mais « tu ne tueras point » n'est pas la traduction la plus précise. Et ça peut d'ailleurs choquer les gens qui connaissent l'hébreu. Alors, on va voir la nuance entre « ne pas tuer » et « commettre un meurtre ». Le sens des paroles tel qu'il est expliqué dans le catéchisme de Martin Luther, c'est « nous devons craindre et aimer Dieu afin de ne point porter atteinte à la vie ou à la santé de notre prochain, mais de le secourir dans le péril et le besoin. » Et là, on a tout de suite quelque chose que je veux moi souligner, c'est que la parole de Dieu et les commandements en général, ce ne sont pas simplement des interdictions. Souvent, les gens ont cette impression, les 10 commandements, c'est « faut pas faire ci, faut pas faire ça », etc., comme si c'était quelque chose de négatif. Mais c'est toujours « fais pas ci en vue de quelque chose d'autre ». Et non seulement ne pas tuer ou commettre de meurtre, mais aussi préserver la vie et aider notre prochain. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant. Alors, notre premier point, c'est par rapport au fait de tuer. La mort et le crime ont été grandement banalisés dans notre société. Dans notre société à nous, mais aussi d'une façon générale, la mort fait partie de beaucoup d'endroits de ce monde. Il y a des guerres en permanence sur Terre, et nous savons d'où ça vient, on va peut-être en parler. Mais dans notre société en particulier, parce que c'est une société qui est mondialisée au niveau de la culture, le cinéma, donc vous avez par exemple, premièrement, c'est... En anglais, ça s'appelle « license to kill », ça veut dire « permis de tuer ». Vous avez par exemple un des héros du cinéma, c'est James Bond. C'est un tueur chic, il est en costume, ne pavillon, et il tue avec un silencieux et proprement. Donc c'est quelque chose qui ne montre pas l'horreur de donner la mort, mais ça véhicule quelque chose que, est-ce qu'on a le droit, dans certaines circonstances, de tuer? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est de quelque part banaliser la mort. C'est toujours quelque chose de dramatique quand un être humain meurt, quel qu'il soit. Mais là, bon, parce que c'est du cinéma, parce que c'est la fiction, on fait passer une certaine idée. Beaucoup de chaînes de télévision aussi, tous les soirs, on passe des séries policières. Ainsi, tous les soirs, il y a des crimes, des meurtres, dont certaines personnes, il suffit de rester une bonne partie de la soirée, vous avez vu plusieurs meurtres. Donc on ne peut pas penser que toutes ces choses n'affectent pas les gens. Je ne dis pas maintenant que ça provoque une vague de criminalité, parce que globalement, c'est quand même moral, et ça montre quand même que c'est pas bien de tuer. Mais il faut quand même être conscient que ce n'est pas anodin, qu'il y a là aussi une pensée par derrière. Nous le croyons, et nous croyons qu'il existe non seulement un Dieu qui donne la vie, mais aussi un ennemi de Dieu et de l'humanité qui s'appelle le diable, et qui lui fait une œuvre de destruction. Et cette œuvre de destruction, on la voit tout autour de nous. Et on est un peu comme du temps de Lot. Et dans 2 Pierre 2, versets 4 à 10, on lit quelque chose concernant les choses spirituelles qui se sont passées. Et il nous est dit, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres des villes de Sodome et de Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré Lot, le juste, qui était, et c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans notre circonstance là, de ce que nous étudions, Lot, le juste, était profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Donc c'est ça qui est important pour chacun d'entre nous, de réaliser en quelle position nous sommes. Nous sommes environnés de choses négatives, dérèglements, œuvres criminelles, et il nous est dit, mais le Seigneur sait délivrer de l'épreuve des hommes pieux, des gens qui sont attachés à lui, qui mettent leur foi en lui, et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Donc, réserver un jugement pour les impies, pour ceux qui ne croient pas. Donc là, ça place déjà quelque chose d'important pour chacun d'entre nous, que c'est Dieu le juste juge. Parce que souvent, les gens, ils ont une image de la justice. Ils choisissent eux-mêmes ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui est condamnable, et ils sont prêts aussi à condamner des gens et à expliquer pourquoi certains auraient le droit de vivre ou non. On le voit beaucoup. Donc, un autre point, toujours dans cette catégorie de la mort et du crime qui ont été banalisés, c'est une interprétation de certaines religions qui promettent à leurs fidèles des récompenses pour défendre leurs croyances et tuer les infidèles. Donc là, on pense évidemment à l'islam qui promet aux djihadistes le paradis d'Allah. Mais pour nous, il est clair que certaines personnes, c'est certainement pas le paradis qui les attend. Il n'y a pas de récompense pour tuer des gens. Mais il n'y a pas que l'islam, il y a eu beaucoup d'autres religions qui ont fait cela. Il y a eu des moments dans l'histoire où le pape et l'église catholique ont encouragé les croisades, qui étaient des massacres. Il y a eu des inquisitions, il y a eu des chasses aux sorcières avec les bûchers. On en profitait pour brûler des hérétiques, mais aussi des gens qui dérangeaient, qui n'avaient pas la même position, qui avaient des attitudes différentes ou qui s'opposaient à eux, tout simplement. Et même parmi les juifs du temps de Jésus, certains étaient prompts à condamner. Et nous avons cela dans l'histoire de Jean au chapitre 8, avec la femme qui était surprise en adultère. Et dit, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu » Et on a l'explication, « Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. » Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme ils continuaient à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Quand on lit ce récit, c'est quand même extraordinaire. On a là des gens religieux qui s'appuient sur la Bible, parole de Dieu, pour condamner une personne. Et Jésus montre un autre chemin. Il explique qu'il n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. Et ça, c'est important pour nous de le réaliser. Est-ce que ça veut dire que la loi de Moïse n'était pas bonne ou n'était pas inspirée de Dieu ? Elle s'appliquait simplement dans un autre contexte. Et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Et Jésus est venu pour accomplir la loi. Il nous explique, qu'on a vu à l'instant, qu'il n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. Dans une autre histoire, dans Luc 6, par exemple, une fois de plus, on a essayé de le piéger. On va lire ça ensemble aussi. Luc 6, au verset 6. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entrait dans la synagogue où il enseignait. Il s'y trouva un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Une fois de plus, c'était pour le piéger. Ce n'est pas pour le bien de la personne, ce n'était pas pour qu'il ait une occasion d'être guéri. Mais il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Ou de la tuer, c'est une drôle de question, vous ne trouvez pas ? C'est un peu étonnant qu'il pose des questions. Est-ce que le jour du sabbat, on peut tuer ? Parce que, en fait, pour appliquer la loi, dans certaines circonstances, Moïse avait prévu que des gens soient condamnés et exécutés. Donc il semblait juste de tuer. Mais là, Jésus dit, moi je ne suis pas venu pour ça. Je ne suis pas venu pour tuer les gens, mais pour les sauver. Donc, qu'est-ce que vous allez répondre ? Vous allez répondre que selon la loi, le jour du sabbat, on ne doit pas tuer. Donc, est-ce qu'on peut donner la vie ? En fait, ils étaient piégés dans leurs propres circonstances qu'ils ont créées. Et Jésus, il nous a dit, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main, il le fit et sa main fut guérie. » Et il ne nous est pas dit, et alors tout le monde se réjouit et disait gloire à Dieu. Mais ils furent remplis de fureur et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Ce qui montre bien dans quelle mentalité ces gens étaient. C'est pourquoi ce n'est pas toujours facile de faire des catégories, de dire tous les méchants sont dans ce camp, tous les gentils sont dans ceux-là. Parce qu'on est tous de la même nature et on est tous capables de nous laisser bernés par le diable pour finalement ne pas faire l'œuvre de Dieu, de la même façon que l'apôtre Paul, il croyait vraiment être, au départ, quand il était encore Saul de Tarse, un défenseur de la foi, mais il nous est dit qu'il respirait la menace et le meurtre et qu'il pourchassait les premiers chrétiens pour défendre sa religion à lui. Donc, pour moi, il n'est pas question de dire maintenant que telle ou telle religion est acceptable ou condamnable. Nous devons simplement chercher dans quelle mesure est-ce que nous faisons la volonté de Dieu. Est-ce en tuant ou est-ce en donnant la vie ? Est-ce en guérissant quelqu'un ou en faisant du mal ? Et Jésus nous a montré le chemin. Donc peut-on tuer ou pas un infidèle, un incroyant au nom de Dieu ? Quelqu'un qui ne partage pas notre foi ? Eh bien non. Non, on ne peut pas. On ne peut pas le justifier, jamais. Et vous savez, on peut tuer des fois avec des armes, mais aussi avec des mots. Donc peut-être nous ne sommes pas armés et en train de mener une guerre contre quelqu'un ici, là où nous sommes, mais on peut aussi utiliser nos mots pour faire du mal. Donc on comprend dans ce contexte aussi que chaque société cherche à se protéger. Ça peut être un groupe religieux, ça peut être un pays, une société, on cherche à se protéger. Alors quand on entend parler de crimes particulièrement affreux, viol, meurtre d'enfants, torture, actes de terrorisme de toutes sortes. Et bien, sous le coup, l'émotion régulièrement, émotion, colère, certains veulent rétablir la peine de mort. Et certains le justifient même bibliquement en disant, voilà, Moïse avait prévu aussi ceci, cela. Mais cette solution supprime le coupable. On a l'impression que, ça y est, le problème est réglé. En fait, ça satisfait plus un sentiment de vengeance. On a l'impression qu'il est puni, mais en réalité, nous savons que le mal demeure. S'il ne se manifeste pas au travers de telle personne, il va à nouveau se manifester au travers d'une autre personne. C'est pour ça qu'il faut aussi combattre des idées par des idées. Il ne suffit pas simplement de supprimer des personnes. Il faut faire plus que ça. Et comme on l'a vu au début, dans notre lecture de 2 Pierre, le seul châtiment qui sera vraiment juste, c'est le jugement de Dieu. C'est celui que lui va porter sur des gens. Et c'est lui qui décidera qui ira où, soit pour être en sa présence pour l'éternité, ou pour être dans une prison spirituelle pour toujours, un lieu de tourment qu'on appelle l'enfer. Une autre réflexion qu'on peut encore avoir par rapport à la mort et par rapport à la loi de Dieu, c'est la loi du talion. On a parlé de œil pour œil, dent pour dent. Alors, c'est pas une loi de violence barbare et de vengeance. C'est au contraire une loi qui visait à limiter le crime. Parce que les gens sont avertis. Ils sont avertis par la loi de dire « Attention, vous ne pouvez pas enfreindre certaines choses, sinon il y a des conséquences et il y a une punition. » Le fait que des personnes pensent que le crime soit impuni, ça encourage certains à continuer. Et nous avons aussi un passage biblique intéressant à ce sujet. C'est dans un passage dans le prophète Ésaïe, 26, verset 10. Il nous est dit « Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice et il se livre au mal dans le pays de la droiture. Il n'a point égard à la majesté de Dieu. » Donc il est dit « Il faut qu'il y ait aussi une punition. » Il faut que les gens se rendent compte de ce que ça représente d'avoir certaines attitudes. Mais en même temps, et ça va être mon dernier point par rapport à cette réflexion sur la mort, le jugement et les attitudes qu'on peut avoir, il y a certaines situations qui exigent le recours soit à la force, du moins à l'action pour défendre quelque chose ou quelqu'un. On n'en est pas là pour simplement dire on se laisse faire, il faut pas agir. Vous voyez, c'est un peu simpliste de dire on a voté pour un gouvernement. Ils appliquent les lois, ils mettent en œuvre les moyens et nous on s'occupe de rien. Et si on n'est pas content, bah dans 5 ans on élira quelqu'un d'autre. Moi je crois que notre responsabilité ne s'arrête pas simplement au moment où on a mis notre billet dans l'urne. Ça va continuer. On a certaines choses où il nous faut réagir contre. On ne peut pas laisser faire. De même que dans notre pays, il y a une loi qui permet de poursuivre quelqu'un pour non-assistance à personne en danger, eh bien, on a des situations où il nous faut agir. Et dans certaines situations, il faut agir, d'une façon physique peut-être, d'une façon pour manifester ou pour faire quelque chose. En tout cas, il faut réagir, on ne peut pas le laisser faire. C'est valable aussi pour une partie de nos compatriotes qui sont les militaires. C'est leur métier d'être là pour défendre notre pays. Ils garantissent la liberté. Et donc, ils exposent leur vie. Des fois, ils sont amenés à tuer. Et pour autant, on ne peut pas dire qu'ils sont en train de commettre des meurtres. D'accord ? Autant donc, nous ne sommes pas pour le fait de tuer les gens, mais on peut aussi comprendre que dans certaines situations, il faut savoir se défendre. Alors, ça nous fait passer tout de suite à notre deuxième point, le droit à la self-défense. Se défendre soi-même. Et nous avons là une réflexion dans Matthieu 5, où Jésus, justement, prend ce passage au verset 38. Il reprend toujours la loi de Moïse, et il donne son complément, son interprétation, et voilà ce que ça entraîne. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis. Donc, il y a toujours, voilà ce qui a été écrit, mais moi, je vous dis. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 mille, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Donc c'est intéressant ce passage, on va voir la suite dans un instant. Mais quelle doit être notre attitude? Il nous est dit par rapport à quelqu'un qui est méchant, d'une manière générale. Et là, on était dans un contexte, je vous rappelle, de pays qui était envahi, occupé par les Romains. Et faire un mille avec lui, si quelqu'un te force à faire un mille avec lui, ça veut dire qu'un soldat romain pouvait réquisitionner n'importe qui de la population et lui dire « Hey, toi, tu m'accompagnes et tu vas me porter des choses, etc. » Donc, ils pouvaient faire ça. C'était leur droit d'occupant. Et donc, Jésus a dit à ce moment-là, tu vas pas dire « Non, il n'en est pas question, etc. » Et t'attirer les foudres et les représailles que ça pouvait comporter, mais il dit « Si quelqu'un t'oblige, fais-en deux avec lui, ça veut dire sois de bonne volonté, fais ce qu'on te demande pour avoir la paix. Si tu te révoltes à ce moment-là, de toute façon, tu étais crucifié dans les temps qui suivaient, donc tu n'as aucun intérêt. Ça ne veut pas dire se laisser faire, toujours courber le dos, mais ça voulait dire ne réponds pas de manière à ce que ça soit à ton préjudice. Sois attentif à ça. Et plus loin, il nous est dit au verset 43, Jésus va toujours plus loin. D'accord ? Il ne reste pas juste à une interprétation littérale de la loi, mais il va plus loin. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Et les publicains, n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Dans cette perfection, l'interprétation que nous en prenons dans la Bible, c'est arriver à cette maturité, aller au-delà de « il m'a fait ci, je réplique par ça », mais avoir une vision plus large du plan de Dieu. Il nous est dit que Dieu a tant aimé le monde avec toutes les personnes qui sont dedans, y compris celles qui ne plaisaient pas. À un endroit de l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul dit « lorsque nous étions encore ses ennemis, Dieu a envoyé son Fils pour mourir pour nous. » On était ses ennemis aussi. Donc nous-mêmes, on a des ennemis. Si on ne commence pas à les aimer à un moment donné, si on ne commence pas à prier pour eux, rien ne changera. Or, c'est justement la volonté de Dieu que ça change. Que des personnes qui, jusqu'à présent, sont en dehors du royaume, ils rentrent dans le royaume de Dieu. Et que ceux qui sont dans le royaume soient transformés pour arriver à cette maturité, à cette perfection. Pour qu'on voit, ah, ces gens sont différents. Ils agissent comme Dieu agit. Ils n'agissent pas simplement par vengeance, par réaction, etc. Donc, tendre l'autre joue, c'est tout un concept. C'est pas juste, je me laisse faire, vas-y, tu peux encore me taper. C'est tout un ensemble d'actions que Jésus nous engage à faire pour pouvoir transformer notre propre vie et le monde qui nous entoure. Toujours parlant de la self-défense dans le droit français, la réponse doit être proportionnée. Si on vous agresse, vous ne devez pas devenir l'agresseur. Vous ne pouvez pas, par exemple, parce que quelqu'un vous a insulté, vous prenez une arme, vous le tuez. Ce n'est pas proportionné. Mais ça veut dire que si vous êtes agressé d'une façon ou d'une autre, vous allez adopter une réaction qui soit proportionnée par rapport à ce qui se fait. Vous n'êtes pas obligé de vous laisser faire, de vous laisser maltraiter non plus. Donc, il faut trouver qu'est-ce qui va convenir. Mais d'abord, c'est une attitude. On n'a pas une attitude de victime en tant que chrétien. N'est pas là pour subir et on laisse le mal se développer. Mais une attitude d'abord de résistant. On va le voir tout à l'heure. La parole de Dieu nous encourage à revêtir toute l'armure de Dieu. Mais on voit certaines choses qui se passent. On ne doit pas devenir l'agresseur, mais on doit pouvoir réagir. Bon, pour ceux qui ont vu des westerns, souvent il y avait les duels. Alors le principe de la self-défense ou droit à la défense aux États-Unis, c'est que si quelqu'un vous attaque, vous avez le droit de réagir. Mais donc, il s'agissait que celui qui tire le premier son arme, c'est l'agresseur. Donc, l'autre devait faire en sorte qu'il ne soit pas le premier à sortir son arme, mais qu'il puisse réagir sans se faire tuer lui-même. D'accord? C'est ça le principe. Donc, ça lui laissait une très petite portion pour qu'on examine. On dit, c'est lui qui a tiré le premier, donc c'est l'agresseur, donc l'autre n'a fait que de se défendre. La légitime défense, c'est un problème souvent très compliqué. Si vous avez une attitude agressive, et là on peut étendre à beaucoup de choses, n'êtes plus en état de légitime défense, vous devenez un agresseur. Donc vous sortez du cadre de ce que Jésus a dit, et vous êtes en train de faire du mal. Pour la petite histoire, au Moyen-Âge, il existait aussi le jugement de Dieu. Alors on faisait un combat entre deux personnes, celui qui l'emportait, c'était forcément que Dieu l'avait favorisé, et donc il était dans son bon droit. C'est très simpliste, mais quelque part, il y a eu des gens qui ont des attitudes comme ça. Alors, on peut se défendre et on peut aussi prendre la défense de quelqu'un. On peut aussi prendre la défense d'une cause, par exemple. Il ne s'agit pas seulement de défendre une personne, mais une cause. Quelque chose qu'on voudrait changer dans la société ou autour de nous. Agir, protester. On parle justement, en France, il paraît qu'on est les champions des manifestations. Des fois, certains amis étrangers disent « Oui, en France, vous avez un drôle de comportement, vous allez dans la rue pour manifester. » Et je crois que certaines manifestations sont tout à fait légitimes parce qu'on doit garder notre libre arbitre, on doit garder notre conscience et on doit pouvoir dire dans un pays qu'on n'est pas d'accord avec certaines choses. Après, on peut quand même respecter certaines décisions du gouvernement, mais on doit pouvoir s'exprimer. Dans certaines situations, justement, on peut se défendre ou prendre la défense de quelqu'un, mais il y a quelque chose que la parole de Dieu nous montre, c'est que nous sommes appelés à vivre dans une dimension surnaturelle. Donc on peut croire à la protection de Dieu, croyez pas? Les anges sont des esprits au service de ceux qui doivent hériter du salut, sont là pour nous, nous croyons à la protection de Dieu, on doit s'exhorter pour ça, mais est-ce qu'on est toujours sûr d'évoluer dans le surnaturel? Des fois, on croit, oui, Dieu, je peux y aller, Dieu est avec moi, etc., alors que Dieu n'a peut-être pas dirigé. Donc, il faut faire attention à cela, mais nous devons nous exhorter chaque jour à nous mettre sous la protection du sang précieux de Jésus. Apocalypse 12, 10 dit la chose suivante, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Donc, n'hésitez pas à déclarer votre foi, jour après jour. Le psaume 91 nous dit un certain nombre de choses. On peut reprendre le verset 1 et 2. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Verset 4 nous dit « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. » Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Nous ne sommes pas dans un contexte de guerre où on avait les armes antiques, boucliers, cuirasses, flèches, etc. Mais nous comprenons ce que ça veut dire. Verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. N'auras pas peur non plus des maladies, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Donc toutes ces promesses, vous pouvez les chercher, les déclarer pour vous et proclamer la protection du sang de Jésus. Concernant encore la protection personnelle et certaines circonstances, il est quand même intéressant de voir que dans Luc 10, quand Jésus a envoyé ses disciples, vous savez, ses disciples étaient des gens de la même nature que nous. Et ils avaient aussi besoin des fois d'être rassurés. Et nous, dans le naturel, on a des fois besoin de voir comment gérer certaines choses. Alors il y a un moment, Jésus les a envoyés en mission et il leur a dit, là on voit les 70 dans Luc 10, 17, mais c'est pas exactement celui que je voulais. Les 70 sont revenus avec joie et disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Mais à un moment, il dit, c'est dans Luc 9, juste avant. Jésus ayant rassemblé les 12, d'abord il assemble les 12 et les envoie, ensuite il envoie encore 70 autres. Il leur donne force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies, il les envoie prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Et voilà le verset 3. Il dit, ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. C'est intéressant, dans cette version, il dit « Ne prévoyez pas par vous-même, n'ayez pas peur, je suis avec vous et je vais vous donner tout ce qui est nécessaire. » Et dans un autre passage, il dit « Ne prenez rien sauf un bâton. » Sauf un bâton. Et moi, le bâton, ça me fait penser au psaume 23 quand il est dit « Ta houlette et ton bâton me rassurent. » C'était un petit peu ordinaire du temps des disciples et même des patriarches en Israël de se promener avec un bâton. Ça pouvait servir à toutes sortes de choses. Pour s'appuyer, pour se défendre des animaux, des brigands, etc. Donc, ils avaient toujours un minimum un bâton. Mais ici, on voit aussi ce côté rassuré. On voit aussi souvent que les personnes qui agressent d'autres personnes, souvent ils sont lâches, ils attaquent ceux qui sont faibles, ceux qui sont isolés, ceux qui se tiennent à l'écart. Et donc, nous voyons que même parmi les gens de la parole de Dieu, qui pourtant s'appuyaient dans leur confiance et leur foi en Dieu, là, ils étaient quand même des fois armés. C'est intéressant ou surprenant de voir que Pierre était armé. Jésus avait chez ses disciples, je ne sais pas si chacun portait une arme, en tout cas, Pierre était armé. Il avait une épée. Ça nous surprend peut-être un petit peu, mais il nous est dit dans Jean 18, lorsque Jésus a été encerclé par ces gens qui voulaient le capturer, que Pierre a pris son épée, il a coupé l'oreille du serviteur. À ce moment-là, Jésus n'a pas dit, « Pierre, tu avais une arme, je n'avais pas remarqué. » Pierre portait une arme sur lui. Et donc, ça faisait certainement partie de leur culture et de leur façon de vivre. Mais le plus important, c'est que nous voyons que Jésus avait cette attitude de dire, « Mais si j'avais voulu me défendre, j'aurais pu invoquer mon Père et à l'instant, il m'aurait donné 12 légions d'anges et vous auriez rien pu me faire. » Donc, il avait décidé de donner sa vie et pour ça, il fallait que tout cela s'accomplisse. Et plus que de s'appuyer sur des choses humaines, nous sommes vraiment exhortés à nous revêtir de toute l'armure de Dieu. Et ça, on va le voir dans Éphésiens 6. Dans Éphésiens 6, l'apôtre Paul, qui a été beaucoup prisonnier dans sa vie, et il avait des soldats qui le gardaient, donc il a étudié l'armure et l'équipement du soldat romain. Donc voilà ce qu'il nous exhorte. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. À cause de cela, à cause de ce combat spirituel, nous comprenons que même si quelqu'un est méchant, même s'il a commis un crime, le fait de le supprimer, de l'emprisonner, n'empêche pas le mal de continuer de se manifester. C'est pourquoi il est important que nous nous revêtions aussi de toutes les armes de Dieu. Verset 13, « Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Donc voilà un équipement que le Seigneur nous encourage à faire. Et mon troisième et dernier point, c'est que nous, comme nous l'avons déjà lu dans Matthieu, nous sommes appelés non seulement à ne pas haïr, mais plutôt encore à aimer. Donc on va toujours plus loin. On reste pas sur un statu quo, on reste pas sur c'est mon ennemi, je le hais, mon frère, je l'aime et tout va bien. Non, on veut aller plus loin. On veut qu'il y ait une œuvre de transformation et que le royaume de Dieu puisse s'étendre. Pour cela, regardons ensemble dans 1 Jean 4 le programme de Dieu par rapport à l'amour de Dieu qui se manifeste. Dans 1 Jean 4, versets 7 à 12. Voilà l'exhortation. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est ainsi que vous pouvez être dans la bonne doctrine, mais si vous ne manifestez pas l'amour, ça montre que vous n'avez pas réellement connu Dieu. Parce que quand on connaît réellement Dieu, on se laisse transformer par lui. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Ça veut dire que c'est devenu concret en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Le mot « ainsi » est important. « Ainsi », ça veut dire de cette façon, de la même façon. Verset 12. « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » De nouveau ce mot « parfait », ça veut dire « arrive à maturité ». Donc nous avons devant nous ce programme qu'il nous faut apprendre à haïr le péché tout en aimant le pécheur. Et ça c'est une chose qui est difficile. Romains 6, 23 nous dit « Le salaire du péché, c'est la mort. » De pouvoir identifier qu'est-ce qui vient dans ma vie et qui produit la mort, d'une façon ou d'une autre. Vous voyez par exemple les fumeurs maintenant, on essaye au maximum de leur compliquer la vie et leur vie de fumeur en écrivant sur un paquet « Fumez-tu le plus gros possible ?» Mais moi, quelqu'un a fait cette remarque, a dit « Mais il faudrait alors le mettre sur beaucoup d'autres choses. » On pourrait le mettre sur certains aliments, voilà. Le fait de consommer ça, ça va certainement vous tuer, parce que c'est quelque chose qui est mauvais pour notre santé. Et on pourrait imaginer à l'étendre à beaucoup d'autres choses. Et je me suis dit, oui, de la même façon quand le péché se manifeste, le péché c'est rater le but, manquer l'objectif de Dieu. C'est tout ce qui conduit à la mort. Si on pouvait l'identifier, alors on pourrait le haïr. Le haïr, ça veut dire quelque chose dont je ne veux pas, je veux m'en débarrasser, je ne veux plus le voir. Donc, apprendre à haïr le péché, faire la distinction entre qu'est-ce qui est, par exemple, d'une personne qui produit en moi un rejet et quelle est la personne elle-même. Si Dieu n'avait pas pu faire cette différence, on aurait tous été consumés. Vous le réalisez, ça. Je l'ai dit, on était tous ses ennemis. Mais il a su aller au-delà et aimer quelque chose en nous suffisamment pour nous donner l'occasion d'être réconciliés avec lui et transformés. Donc si on veut être à l'égal de notre Père parfait, il faut qu'on fasse ce travail quotidiennement, d'identifier, en disant « J'aime telle personne, mais ce qu'elle fait là, c'est pour moi insupportable, ou c'est quelque chose qui apporte vraiment une situation, ça peut être du un peu pénible ou désagréable, à vraiment toxique, voyez ?» Donc il y a pour nous à faire ce travail constant. Mais vous savez, il est difficile en même temps de prier pour quelqu'un et de le maudire en même temps. Donc, il faut faire une action. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. L'amour de Dieu a été manifesté. Montré par des choses concrètes qu'on veut aider la personne d'une façon ou d'une autre, ou la bénir. Je parle maintenant d'une personne, mais ça peut être aussi d'autres choses, hein. J'avais entendu il y a des années de ça, c'était dans le cas de notre église, à un moment, quelqu'un qui avait une attitude vraiment très très négative, il avait dit d'une catégorie de personnes, oh, ils peuvent tous crever, ça m'est égal. Alors c'était la fois où j'avais dû réagir en public en disant, je ne peux pas accepter cela. On ne peut pas avoir une telle attitude. Et vous savez, cette attitude, elle se manifeste tous les jours. Il y a dans le monde entier, pas tellement loin de nous, hein, il y a des gens qui manifestent de l'indifférence, voire de la haine à l'égard d'un beaucoup de personnes. On peut penser que tous les chômeurs sont forcément des fainéants, s'ils voulaient travailler, ils pourraient le faire. Ça, c'est des attitudes et des raisonnements que nous voyons autour de nous. Qu'on peut être raciste parce que ce sont des gens qui font ceci, cela. Que des étrangers, ben, ils mangent notre pain. Il y a tellement de généralités qui se font en permanence. Ils sont tous. Le plus important, c'est qu'on réalise que chaque personne, chaque être humain est un enfant de Dieu potentiel, il l'est ou il n'est pas, en tout cas une créature de Dieu, qui sont aimés de Dieu, que Jésus est mort pour eux, et même que le pire criminel, il a un avenir éternel qui est devant lui. Est-ce que ça sera la perdition ou est-ce que ça sera le salut? On ne doit pas se tromper de position. Nous ne sommes pas en position de juge. On a un devoir, c'est d'être comme notre Père Céleste. À l'égard de ce commandement, tu ne tueras point, on peut se rappeler que Jésus a aussi dit que même si vous avez certaines pensées, vous êtes déjà digne de condamnation. On va le regarder encore une fois dans Matthieu 5. Il me semble que c'est cela. Matthieu 5, verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère raca, moi j'ai la traduction, ça serait vide, un terme injurieux qui signifie quelque chose comme stupide, et mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Donc ça c'est l'explication de Jésus pour dire que lorsqu'on laisse ces pensées demeurer en nous, elles vont évoluer, se transformer et forcément nous conduire à aller toujours plus loin. Donc, la tolérance est présentée dans notre société comme une vertu majeure. Mais la tolérance a ses limites. Ce qu'on tolère, on ne peut pas le changer. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas laisser faire. Si vous n'êtes pas content de ça, mais faites ce qu'il faut pour que des choses changent. Ça peut être pour votre vie, pour votre santé. Ça peut être des choses que on vous dit, on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est la mondialisation. Mais nous, on est appelés à être à l'égard de notre Père Céleste, ceux qui changeons le monde, qui apportons quelque chose du royaume de Dieu. Le dernier exemple que je voudrais vous montrer encore, pour cette illustration de faire la différence entre une personne et son comportement, se trouve dans Marc, au chapitre 10 et verset 21. C'est ce jeune homme qui nous est appelé l'histoire du jeune homme riche qui court vers Jésus, il veut savoir quoi faire pour hériter la vie éternelle, et lui dit, j'ai observé tous les commandements, j'ai fait tout cela, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, etc. Il dit, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Et il nous est dit au verset 21, Jésus l'ayant regardé, l'aima, et lui dit. Donc, il l'a regardé, il l'a aimé. Donc, à un moment donné, il aurait pu avoir une autre attitude, il aurait pu dire, non, qu'est-ce que tu me racontes là? Ça n'est jamais arrivé que quelqu'un observe parfaitement les commandements. Tu es un menteur. Non. Jésus a eu une autre attitude. Il a aimé, il a voulu l'aider, il lui a dit quel était vraiment ce dont il avait le plus besoin. Mais il ne l'a pas reçu, hélas. Et concernant les commandements, ma conclusion se trouve à nouveau dans Jean, 1 Jean, chapitre 5. Et on va lire les versets 1 à 5. Et prenez-le vraiment pour vous-même. Voilà ce que vous pouvez faire, voilà comment vous pouvez laisser Dieu vous transformer. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. À chaque étape, vous pourrez vous positionner. Quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. C'est clair? Comprenez? On ne peut pas dire j'aime Dieu, mais j'aime pas celui qui est né de lui. J'aime pas mon frère. Verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et nous pratiquons ses commandements. Verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et voilà une phrase importante. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Et là, je pense que le diable a réussi un beau coup. Il convainc les gens que les commandements de Dieu sont pénibles. Que c'est compliqué, que c'est difficile, que c'est restrictif, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, tu te rends compte, tu ne peux même pas dérober. On voit bien que des commandements ne sont pas pénibles, mais Mais en plus, ça rendrait le monde tellement meilleur. Mais ce qui manque, c'est qu'il faut pouvoir être né de Dieu d'abord. Verset 4, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Donc nous avons triomphé du monde si nous mettons notre foi en action. Amen.
Nous espérons que vous avez été béni par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseigne-moi.org. www.association-enseigne-moi.org.